Allez, debout la marmotte.
Quoi ? Non mais t'es malade là, on est dimanche, moi je fais la sieste.
Aujourd'hui est un grand jour, on va voir Patrick.
Quoi ? Qui ça ? Qu'est-ce que tu racontes là ?
Mais Patrick ! Ne me dis pas que tu as oublié.
Mais de qui tu parles ? Patrick, le frère de mamie ?
Mais non ! Allez, petite devinette. Je suis née en 1978.
Je vois pas... Patrick Bosseau ?
Je suis très rapide, une star absolue dans ma discipline.
Un sportif, alors. Patrick Vira ?
Eh non ! On me reconnaît immédiatement grâce à mon panache orange.
Alors là, je vois vraiment pas.
Mais enfin, c'est Patrick, la première rame de TGV !
Non mais comment tu voulais que je sache ça ?
Mais tu te souviens pas, les vacances chez les grands-parents quand tu avais 7 ans ? On avait visité le musée du train de Mulhouse et il y avait la maquette de Patrick.
Ah mais oui, je vais complètement oublier. Patrick, la fusée du rail.
D'ailleurs, le journal en parle aujourd'hui. En 40 ans, cette rame a parcouru plus de 13 millions de kilomètres. Cela correspond à 337 fois le tour de la Terre.
Ah, avec la maquette, il y avait un livret et il disait que Patrick, c'était le fils du premier conducteur de la rame. Et tu te rends compte que si papa avait conduit des TGV, il y aurait une rame Arthur.
Je te rappelle que c'est moi l'aîné de la famille. La rame se serait donc appelée Delphine et pas Arthur.
Ouais, bon, en tout cas, je t'attends, moi. On y va ? On va voir Patrick ?
Eh, mais attends, tu vas pas partir en chaussons ?
Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Comme la locomotive à vapeur avant lui, le TGV est présent dans tous les esprits. Il a révolutionné le chemin de fer en France. Grâce à ce bolide du rail, la géographie française s'est peu à peu redessinée. Les distances entre les métropoles ont raccourci. De Paris à Lyon, à Marseille ou Bordeaux. Aujourd'hui, il vous paraît tout à fait normal de faire l'aller-retour dans la journée, là où avant, il fallait compter plusieurs jours. Et ça, c'est une véritable révolution dans la culture du voyage. Depuis ses débuts, le train a été associé à la vitesse, voire à la grande vitesse. Souvenez-vous, au 19e siècle, au début du chemin de fer, ses détracteurs les plus farouches avançaient des arguments qui nous semblent aujourd'hui complètement farfelus. Avec les 30 ou 40 km/h que les machines allaient atteindre, il était certain que des catastrophes allaient advenir. Les femmes allaient faire des fausses couches, on allait assister à des morts subites dues à la vitesse, on souffrirait d'arrêt cardiaque, d'explosion cérébrale, de crise de démence. Mais pour d'autres, bien sûr, les trains et leur vitesse étaient une chance de développement économique et un gain de temps incroyable. L'histoire de la grande vitesse et de la très grande vitesse est une histoire jalonnée d'étapes successives, sur plusieurs décennies. C'est cette grande vitesse que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Depuis le début, la France s'est vue comme le pays du train et de la vitesse ferroviaire, avec des records de vitesse battus les uns après les autres. Mais, au XXe siècle, le train, à la pointe du progrès et de la mode au XIXe, a perdu de sa superbe. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il fait face à la concurrence féroce de l'automobile et de l'avion. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il redevient un enjeu important. D'abord, en 1964, les Japonais font rouler un train jusqu'à 210 km/h en vitesse de pointe sur la ligne Shinkansen-Tokaido. Et ça, ça en met un coup à la fierté de la France. Le pays et la SNCF se doivent de réagir pour ne pas être dépassés. Il est urgent de réformer le chemin de fer et de se tourner vers la grande vitesse. C'est ce que m'a raconté Christian Faunet, grand connaisseur du chemin de fer et membre de Rail et Histoire.
En France, on se dit, mais c'est pas possible, la France détient... Le record du monde de vitesse sur rail. Et comment se fait-il que le Japon, une nation qui a perdu la guerre, se permette de faire des grandes vitesses ? Donc les pouvoirs publics se sont un peu émus. Et notamment un ministre à l'époque, qui s'appelait Edgar Pisani, et qui a dit à la SNCF, mais est-ce que vous pouvez faire ces vitesses-là de 200 km/h ? Alors la SNCF dit, ben oui, bien sûr, on peut, mais bon, on attend votre autorisation. Parce que depuis 1853, il y a un décret de Napoléon qui limitait la vitesse à 120 km/h. Et donc une première expérience a été tentée entre Orléans et Vierzon avec le Capitole au service d'été 1967, où le Capitole a été le premier train à rouler à 200 km/h entre Orléans et Vierzon avec un nouveau système de signalisation. Et ça a permis de ramener la vitesse, le temps de parcours entre Paris et Toulouse à 6 heures pile.
Quelques années plus tard, comme une bonne partie de la planète, la France subit de plein fouet la crise pétrolière des années 70. Le prix des carburants flambe, le coût de la voiture et de l'avion explose. Et ça, ça permet au train de reprendre sa marche en avant. Mais n'allons pas trop vite. D'abord, revenons aux origines de la grande vitesse. Nous sommes encore dans les 30 Glorieuses, et au sujet de la grande vitesse made in France, tout est à faire, ou presque. Dès le début, un choix stratégique s'impose. Faut-il faire évoluer le matériel et le réseau existant, ou faut-il partir de zéro et imaginer un nouveau chemin de fer ? Plusieurs écoles s'affrontent alors, les tenants de l'évolution contre ceux de la révolution.
Alors, il y en a qui disent que c'est une révolution, et d'autres qui disent que c'est une évolution. En matière technique, c'est une évolution. Le chemin de fer a été bien inventé au départ. C'est absolument extraordinaire, le contact roue-rail. Donc, on a perfectionné le système, par des locomotives à vapeur de plus en plus puissantes, puis des locomotives diesel, puis des locomotives électriques, et puis voilà, et puis des automotrices légères. Le TGV est une automotrice. Donc qui roule plus vite, effectivement, puisqu'on a quand même atteint... Les records ont été perfectionnés, hein, puisque le record actuel, depuis le 3 avril 2007, 574,8. C'est-à-dire que si ce TGV-là, s'il avait eu des ailes, il se serait envolé. C'est-à-dire qu'il roule plus vite qu'un avion en cours de décollage. Donc, le TGV est une évolution du train classique. Révolution, probablement, oui, dans la mesure où on a obligé les gens déjà à réserver, comme dans les avions. Bon. Et puis, surtout, on a fait ce qu'on appelait des dessertes.
Le 15 septembre 1966, une réunion de conciliation est organisée entre les partisans des deux camps. Résultat, certaines lignes seront modernisées et une nouvelle sera créée. Elle reliera Paris et Lyon et pourra accueillir du matériel roulant jusqu'à 250 km/h. L'idée, c'est en quelque sorte de s'inspirer du réseau autoroutier, avec des routes pour les trains classiques et des autoroutes pour la grande vitesse. Petit à petit, la grande vitesse avance. On commence par améliorer du matériel et des lignes classiques, on booste un peu le tout avec le fameux train Capitole, on avance sur le turbotrain à grande vitesse, et, de leur côté, les ingénieurs explorent toutes les pistes susceptibles de faire gagner en vitesse de croisière. Mais des doutes subsistent. Le coût financier semble exorbitant et le gouvernement ne suit pas. Parmi les critiques, le prix du billet, que l'on imagine forcément inaccessible, est destiné à un seul type de population, privilégiée, qui serait capable de le payer. D'autres tentatives parallèles voient également le jour. À partir de 1965, l'ingénieur Bertin envisage de relier Paris à Lyon en 2 heures grâce à son aérotrain. Le choix est fait d'une technologie de substitution élaborée à partir de 1957 par l'ingénieur et ses équipes. Après de longues années de travail, le 29 décembre 1965, un prototype se déplace à 300 km/h et un an plus tard atteint les 345 km/h. Le 5 mars 1974, il battra même le record mondial de vitesse avec 430 km/h. Mais quelques mois plus tard, le projet s'arrête et en 1977, il sera définitivement abandonné.
Alors l'inconvénient de ce système-là, c'est qu'il fallait une infrastructure dédiée pour lui, alors que la SNCF travaillait sur plutôt un automoteur avec une infrastructure classique existante.
Les causes de cet échec industriel sont complexes et encore débattues à ce jour. Mais beaucoup pensent que sans cette concurrence, le TGV n'aurait peut-être pas eu sa forme actuelle, voire n'aurait jamais existé. Revenons donc à celui-ci. Au milieu des années 60, la première direction de la recherche est créée à la SNCF et un programme sur la grande vitesse est lancé. Nous sommes en plein film d'espionnage. On parle des dossiers en code. Dossier A pour amélioration de l'outil existant, B pour recherche économique, C pour préparer les technologies nouvelles, D pour économie du transport à long terme. Un projet sort du lot, le C03, possibilité ferroviaire sur infrastructure nouvelle. Il est lancé en 1967 et soutenu par la nouvelle génération d'ingénieurs, dont Marcel Tessier. D'ailleurs, Marcel Tessier se définissait lui-même comme le grand-père du TGV. Mais c'est à Robert Jay, chef de service voie et bâtiment du réseau du Nord, que l'on doit l'appellation « transport à grande vitesse », tiré d'un projet qui proposait de créer une infrastructure mixte, route et chemin de fer. Le nom TGV était né. Les recherches se poursuivent et la SNCF, dans ses années 60, penche fortement du côté de la turbine à gaz pour faire avancer ces nouveaux trains.
C'est un autorail qui a été créé en 1967 et ça a été le premier autorail à turbine. Et ils ont fait des essais là-dessus et c'était des essais très satisfaisants. Il est monté à très grande vitesse et donc la SNCF a décidé d'utiliser des nouveaux autorails qu'on a appelés les turbotrains et qui ont été mis en service entre Paris et Cherbourg à partir de 1970. Ils appelaient les ETG, les éléments à turbine à gaz. C'était la première génération de turbotrains.
En deux ans, ils auront parcouru près de 300 000 km et permis de récolter de nombreuses données techniques. Caen est alors desservie en 1h49 à 160 km/h de moyenne. C'est une petite révolution qui allie rapidité, fréquence de circulation et accessibilité grâce à une seconde classe sans surcoût. La SNCF fait alors feu de tout bois et, riche des retours de ses nombreuses expérimentations sur la vitesse, elle peut commander le 11 juillet 1969 un turbotrain expérimental avec turbine à gaz. Le 23 mars 1972, ce prototype TGV 001 est présenté dans les usines Alstom de Belfort. Il est alors doté, 1. d'un design révolutionnaire dû à Jacques Cooper, vous savez, le long nez du train et sa couleur orange. 2. d'une rame articulée et indéformable. 3. d'une signalisation embarquée en cabine. Et oui, à 200 km/h, c'est impossible pour les conducteurs de bien voir les panneaux sur les voies. C'est la naissance de la TVM, transmission voie-machine.
Et ce TGV, avec ses essais toujours sur la ligne droite des Landes, et un peu le banc d'essai, atteint quand même 318 km/h. Donc la grande vitesse devient possible.
Et ça ne s'arrête pas là. Le 1er décembre 1972, la SNCF lance son prototype de rame à turbine à gaz, le RTG 01. Le RTG 01 est l'étape suivante dans notre chemin vers le TGV. Jusqu'en 1974, il a permis de travailler à l'amélioration de l'aérodynamisme, de la stabilité et de l'adhérence. Ensuite, en 1973, la SNCF lance une automotrice transformée, baptisée Zébulon. Oui, oui, comme le personnage du manège enchanté. Elle permet de tester de nouveaux matériaux et de poursuivre les essais de vitesse. On atteint les 309 km/h en 1975. Tout à l'heure, je vous parlais de la crise pétrolière de 1973. Elle est très liée à l'histoire du train. En fait, elle impose un changement radical de stratégie dans la conception du train à grande vitesse. Face à la traction thermique, on préfère désormais l'électricité. En 1974 est une année décisive. Si la SNCF veut que son train à grande vitesse roule en 1980, il faut absolument que la déclaration d'utilité publique intervienne au plus vite. En octobre de la même année, une direction de la ligne nouvelle Paris-Sud-Est est créée à la SNCF. Et enfin, le 4 décembre 1978, paraît le décret par lequel l'État concède à la SNCF la construction et l'exploitation de la ligne nouvelle. Tout est désormais réuni pour que la grande vitesse déploie ses ailes sur la France. Et le 7 décembre 1976, le premier chantier est ouvert à Écuisses, en Saône-et-Loire. En parallèle des travaux de construction de la première ligne à grande vitesse, le matériel évolue lui aussi. En juillet 1978, la première rame de pré-série TGV PSE 01 sort des usines Alstom. Le 29 janvier 1979, c'est la première marche de Patrick et Sophie entre Strasbourg et Colmar. Patrick et Sophie, ce sont les noms donnés aux deux premières rames d'essai. En deux ans, Patrick et Sophie parcourent 800 000 km et subissent 15 000 mises au point. C'est du jamais vu. En 81, la rame TGV baptisée numéro 16 bat le vieux record de vitesse de 1955 avec une vitesse de
380 km/h, rien de tel qu'un bon petit record de vitesse.
Avec le TGV, beaucoup de choses changent, et pas seulement du point de vue technologique. Quand on parle TGV et origine de la grande vitesse, on pense immédiatement à ce train avec un long nez et son emblématique couleur orange. Ce premier TGV est l'œuvre du designer Jacques Cooper. Chez Alstom, on lui avait demandé « Dessine-moi un train qui ne ressemble pas à un train ». C'est ce qu'il a essayé de faire. Mais comment va réagir le public ? Personne ne le sait. On décide donc, en attendant la fin des travaux de la ligne nouvelle, que le matériel grande vitesse sera utilisé sur la ligne classique Paris-Lyon, afin que les clients s'habituent à ces nouveaux trains. On surnomme alors ce matériel le Lyonnais. Rien n'arrête la marche en avant de la grande vitesse. Et, le 22 septembre 1981, le président François Mitterrand inaugure ce nouveau chapitre de l'histoire ferroviaire avec le premier tronçon grande vitesse entre Saint-Florentin et Mâcon. Et alors, cette première ligne, en chiffres, ça donne quoi ? 273 km de voies, 386 ouvrages d'art dont 8 viaducs, 181 ponts rails, 126 ponts routes, 100 000 tonnes de rails, 1 500 000 traverses, 5 900 000 tonnes de ballast. Avec cette inauguration, la grande vitesse en France était née. Et aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. Imaginez qu'en 2005, les TGV ont atteint le milliard de voyageurs transportés. Et c'est en perpétuelle évolution. Après le train au grand nez de Cooper, c'est au tour d'un autre designer de s'illustrer dans les années 90, Roger Talon, qui modifie la façon de penser le train. Il faut que la technique prenne en compte le commercial. Il faut satisfaire les attentes du client. Les TGV deviennent alors gris et bleu. Le orange est dépassé. Le designer a expliqué avoir été notamment influencé par l'univers d'Yves Klein. Depuis 1981, la grande vitesse s'est déployée et avec elle de nombreuses évolutions technologiques. La vitrine de tout cela, ce sont notamment les records de vitesse, qui ne sont pas là que pour alimenter les pages Wikipédia. Ils permettent de valider des avancées technologiques et de donner de la visibilité au train et à ceux qui l'exploitent. Mais qu'en sera-t-il de demain ? J'ai demandé à Christian son avis sur le futur de la grande vitesse en France.
L'avenir, c'est une interconnexion de tous les pays européens. Ça avance, ça avance. On peut imaginer même des TGV de nuit, c'était envisagé, faisant Londres-Rome, par exemple, en une nuit, par exemple, pourquoi pas. Ou d'autres liaisons. Mais je pense qu'on viendra à ça. Et puis, surtout, avec des TGV beaucoup plus performants, là, dont une maquette a été dévoilée là, récemment à Villeneuve-Saint-Georges. Un beau TGV, avec des moteurs asynchrones. C'est la grande mode en ce moment. Le confort aussi, le confort sera modifié, parce qu'au début, on a reproché aux TGV que les sièges n'étaient pas tellement confortables pour une longue durée. Mais faut pas oublier que le TGV était fait pour des liaisons ville à ville, très courtes, 2 heures maxi. Bon, 7 heures de TGV dans un siège classique, c'est pas... Donc, ils ont changé les sièges, ils ont changé l'aménagement. Puis, on voulait aussi mettre le maximum de personnes dans un train, c'est normal.
Dans cet épisode, on a beaucoup parlé de records de vitesse. Ça nous a donné envie de vous faire un petit historique, histoire de se rendre compte du chemin parcouru. Nous en avons sélectionné quelques-uns. En 1829, la roquette de Stephenson atteignait les 48 km/h. 80 ans plus tard, en 1903, près de Berlin, une automotrice électrique Siemens atteignait les 213 km/h. Retour en France. En 1955, nouveau bond en avant avec la CC7107 d'Alstom qui roule à 325 km/h. Le 26 février 1981, la rame TGV Sud-Est numéro 16 atteint facilement les 380 km/h. On aurait pu aller beaucoup plus vite, mais la prudence est de mise chez les dirigeants, qui préfèrent assurer ce record sans prendre de risques avec le tout nouveau TGV. 7 ans plus tard, l'ICE allemand passe la barre des 400 km/h, avec une vitesse mesurée à 406,9 km/h. En mai 1990, on atteint les 515,3 km/h sur la toute nouvelle LGV Atlantique. C'est plus rapide qu'un Boeing 747 au décollage. Enfin, le 3 avril 2007, à 13h13, la rame TGV d'essai 4402 repousse les limites. Elle atteint une vitesse de 574,8 km/h sur la LGV Est-Europe. C'est une vitesse record de 150 mètres par seconde qui est dépassée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, et à bientôt !